Afrique, à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du mercredi 12 juin 2024. Les espoirs s'amenuisent au Nigeria pour retrouver vivant une vingtaine de mineurs pris au piège après l'effondrement d'une mine. Judith Suminwa, la première ministre de la République démocratique du Congo, a présenté et défendu hier son programme devant l'Assemblée nationale.
C'est un grand défi pour elle parce qu'elle intervient dans un environnement qui est très complexe, un déficit intérieur, un endettement qui remonte, un contexte international qui n'est pas favorable non plus à la mobilisation financière.
Analyse à suivre dans la partie magazine. L'ONU ajoute l'armée soudanaise et les paramilitaires soudanais et l'armée israélienne sur sa liste de la honte en raison des violences faites aux enfants dans ces pays en conflit. Ici aux États-Unis, Hunter Biden, fils du président américain, déclaré coupable de détention illégale d'armes à feu. En sport, suite et fin hier des matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. On en parle dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, devant les députés réunis hier en plénière, la première ministre Judith Suminwa, nommée le 1er avril, a déroulé un programme qualifié d'ambitieux qu'elle a chiffré à 92,9 milliards de dollars sur 5 ans. De nombreux défis attendent le nouveau gouvernement de plus de 50 membres, créer des emplois, diversifier l'économie trop dépendante du secteur minier, fournir aux Congolais plus d'eau potable et d'électricité, entre autres. Le rétablissement de la sécurité est aussi parmi les priorités de Judith Suminwa. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Nigeria, les sauveteurs ont perdu tout espoir de retrouver vivants au moins 20 mineurs pris au piège une semaine après l'effondrement d'une mine dans l'ouest du pays. La mine s'est effondrée sur des mineurs artisanaux employés par une société minière locale dans un village de l'État du Niger. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Tout espoir de retrouver les mineurs vivants est perdu. 8 jours se sont écoulés depuis qu'ils ont été ensevelis dans le puits, a déclaré Ibrahim Odi Ousseni, porte-parole de l'Agence nationale d'aide d'urgence. La CEMA avait déclaré que plus de 30 mineurs étaient pris au piège, mais la police a ramené ce nombre à 20. En raison de l'insécurité qui règne dans cette région, les secours n'ont pu intervenir immédiatement pour secourir les mineurs coincés. L'odeur nauséabonde qui se dégage du puits et l'eau qui s'infiltre en dessous laisse penser que les mineurs sont morts, mais les artisans continuent de creuser les rochers dans l'espoir d'atteindre les mineurs pris au piège, a déclaré M. Ousseni. Pour diverses raisons de sécurité, le gouvernement de l'État du Niger a interdit l'exploitation des mines dans les districts de Chiroro, Mounia et Rafi. Mais dans cet état où l'orpaillage est l'une des seules ressources pour les habitants, de nombreux sites miniers continuent de fonctionner malgré les mises en garde et les interdictions.
En Afrique du Sud, le parti Umkhonto Wesibwe de l'ancien président Jacob Zuma demande à la justice d'empêcher le Parlement nouvellement élu de siéger cette semaine au motif que le vote du 29 mai avait été entaché de fraude. Les détails avec Nanit Talani.
Umkhonto Wesibwe est arrivé en troisième position, remportant 14,6% des voix avec 58 sièges sur une chambre de 400 parlementaires. Mais malgré ces résultats, le parti assure qu'il y a eu une fraude électorale et menace de boycotter le nouveau Parlement. Les élections de 2024 ont été tout sauf libres et équitables, affirme le parti dans sa requête déposée auprès de la Cour constitutionnelle. Pour Lawson Naido, secrétaire exécutif du Conseil pour l'avancement de la Constitution sud-africaine, le document d'accusation du parti Umkhonto Wesizwe de l'ex-président Jacob Zuma ne contient pas suffisamment de substance pour justifier l'intervention de la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale doit se réunir vendredi pour que les législateurs prêtent serment et élisent leur président, leur vice-président et le président du pays. Pilier de longue date de l'ANC, M. Zuma s'est brouillé avec le parti après avoir été contraint de quitter ses fonctions de président en 2018 à la suite d'une série de scandales de corruption. Il a été emprisonné en 2021 pour avoir refusé de témoigner lors d'une enquête publique qui a révélé une corruption généralisée dans le secteur public sous son administration.
Les violences contre les enfants lors des conflits ont atteint des niveaux extrêmes en 2023. particulièrement à Gaza et au Soudan, selon un rapport de l'ONU qui inscrit les armées israéliennes et soudanaises sur sa liste de la honte. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR sont en guerre. Le document constate plus de 1700 violations graves contre 1526 enfants, dont 480 tués en 2023. En Israël, l'ONU dit avoir pu confirmer la mort de plus de 2000 enfants palestiniens dans la bande de Gaza en 2023, dont l'immense majorité entre le 7 octobre et le 31 décembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden part ce mercredi pour le sommet du G7 en Italie. La Maison-Blanche précise que le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky auraient demain jeudi une réunion bilatérale suivie d'une conférence de presse commune. Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, les États-Unis veulent accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 milliards de dollars de prêts garantis par les intérêts des 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe gelés par l'Union européenne et les pays du G7. Le président Joe Biden justement a réaffirmé hier dans un communiqué qu'il continuerait à respecter la procédure judiciaire peu après le verdict de culpabilité de son fils Hunter Biden prononcé par un jury du tribunal pénal de Wilmington dans le Delaware. Jacques Aristide.
Hunter Biden a été jugé coupable de détention illégale d'armes à feu en 2018 sur fond d'addiction au crack et en pleine campagne du président Joe Biden pour sa réélection face à son rival républicain Donald Trump en novembre. Le dirigeant démocrate a répété qu'il accepterait la conclusion de cette affaire. « Je suis le président, mais je suis aussi un père. » La première dame Jill Biden et moi aimons notre fils et sommes si fiers de l'homme qu'il est aujourd'hui, a écrit le président qui avait déjà témoigné à son fils Hunter de son amour infini tout en s'engageant à ne pas le gracier. Le verdict est tombé le même jour où Joe Biden a prononcé un discours sur la limitation de la prolifération des armes à feu, un fléau aux États-Unis. Il s'est ensuite rendu à Wilmington, le fief des Biden, pour retrouver son fils cadet, qui encourt en théorie jusqu'à 25 ans de prison, mais une peine alternative pourra être décidée également. L'équipe de la campagne Trump a fustigé un procès qui n'est rien d'autre qu'un moyen de détourner l'attention des véritables crimes de la famille Biden, qui a amassé, selon elle, des dizaines de millions de dollars de Chine, Russie et Ukraine. Le 30 mai à New York, Donald Trump a lui été jugé coupable de paiement dissimulé à une vedette de films pornographiques.
Justice toujours, un ancien militaire américain, David Hossier, condamné à mort pour le meurtre en 2009 d'une femme avec laquelle il avait eu une liaison, a été exécuté hier par une injection létale au Missouri, dans le centre des États-Unis. Il avait été condamné en 2013 pour le meurtre d'Angela Gilpin, dont il s'est toujours dit innocent. Au total, 24 exécutions ont été réalisées aux États-Unis en 2023, toutes par injection létale. La peine de mort a été abolie dans 23 États américains sur 50. Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson a conclu un accord définitif avec la justice de 42 États des États-Unis. C'est dans le cadre d'une affaire de talc accusé d'avoir causé des cancers. Selon la procureure de l'État de New York, Leticia James, Johnson & Johnson a accepté de débourser 700 millions de dollars en 4 échéances sur 3 ans. Le talc est accusé de contenir de l'amiante et de provoquer des cancers des ovaires. Les États-Unis examinent ce mercredi la réponse du Hamas à un plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza promis cette semaine au Moyen-Orient par son chef de la diplomatie Anthony Blinken. Le contenu de cette réponse n'a pas encore été annoncé, mais un dirigeant du Hamas, Izzad al-Rizq, a publié un bref communiqué pour affirmer que la réponse était à la fois responsable, sérieuse et positive et qu'elle ouvrait la voie à un accord. Un important commandant militaire du Hezbollah a été tué mardi soir dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. C'est avec une grande fierté et un grand honneur que la résistance islamique annonce le martyre du commandant Taleb Sami Abdallah, connu sous le nom de Hajj Abu Taleb, qui est monté en martyr sur le chemin de Jérusalem, a écrit le mouvement chiite libanais allié du Hezbollah, du Hamas, pardon. Un nouveau gouvernement a été nommé mardi en Haïti avec pour mission de tenter de rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays, ravagé par la violence des gangs. En février, les gangs dont la violence ravageait déjà des pans entiers du territoire ont lancé des attaques coordonnées contre des sites stratégiques disant vouloir renverser Ariel Henry. Son successeur, Gary Koenig, médecin de formation, a déjà été premier ministre pendant une courte période en 2011-2012. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Passons maintenant à la page économie, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le déficit budgétaire de l'Éthiopie est estimé à 2,1% du produit intérieur brut pour la prochaine année fiscale, a déclaré mardi le ministre des Finances de ce pays d'Afrique de l'Est, Ahmed Shide. L'Éthiopie pourrait devoir accepter une forte dévaluation de sa monnaie pour obtenir le prêt de sauvetage qu'elle tente de négocier avec le Fonds monétaire international, selon les analystes. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir conclu un accord préliminaire avec le Kenya sur le décaissement de nouvelles tranches de prêts d'un montant total d'un peu plus d'un milliard de dollars en faveur de Nairobi pour régler des problèmes de trésorerie. Le FMI a toutefois exhorté le Kenya à ajuster le budget de l'État en y incluant davantage de mesures de collecte de recettes. L'Union européenne a annoncé mardi avoir conclu un contrat lui permettant d'acheter, au nom des États membres, jusqu'à 665 000 doses d'un vaccin prévenant la transmission de la grippe aviaire à l'humain, alors que plusieurs cas ont été rapportés aux États-Unis, au Mexique et en Australie. Ces doses seront destinées aux personnes les plus exposées à la transmission potentielle de la grippe aviaire par les oiseaux ou les animaux, comme les travailleurs des élevages de volailles, et les vétérinaires précisent un communiqué.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
On commence par la suite et la fin hier des matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique.
Cette compétition continue livrée à sur. Dans le groupe B, le Soudan est en tête avec 10 points en 4 matchs après avoir battu le Soudan du Sud 3-0 à Djouba lors du match inaugural du nouveau stade. Le Sénégal suit avec 2 points de moins. Dans les autres groupes, Madagascar, le Mali, le Kenya et la Côte d'Ivoire ont tous fait match nul. L'île Maurice a remporté une victoire cruciale 2-1 contre les Swatini, renforçant ses espoirs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le groupe C voit le Rwanda en tête à égalité avec l'Afrique du Sud après une victoire d'un but à 0 contre le Lesotho grâce à un but de Georgia Quizera. Dans le groupe D, le Cap-Vert a battu la Libye 1-0, prenant ainsi la tête du groupe. La Tanzanie a créé la surprise dans le groupe E en s'imposant un but à 0 face à la Zambie, à Andola, tandis que les Comores ont pris les commandes du groupe I avec une victoire 2-0 contre le Tchad. Le Ghana mène le groupe I après un match nul sur un score vierge d'un but de 0 but partout entre Madagascar et le Mali à Johannesburg. Le Kenya et la Côte d'Ivoire ont également fait match nul à Lilongwe, ce qui permet à la Côte d'Ivoire de rester en tête du groupe F avec 10 points, tandis que le Kenya est troisième avec 5 points. Le Gabon a gagné 3-2 contre la Gambie à Franceville, tandis que le Maroc a dominé le Congo 6-0, conservant ainsi sa place de leader dans le groupe E. Le Burundi a battu les Seychelles 3-1, se plaçant derrière la Côte d'Ivoire et le Gabon. Enfin, l'Angola et le Cameroun ont partagé les points avec un match nul, un but partout à Luanda. Le Rwanda et le Cap-Vert sont bien positionnés pour décrocher 2 des 9 places automatiques pour la Coupe du Monde 2026.
Coup dur pour les Pays-Bas à 2 jours de l'ouverture de l'Euro 2004 qui défait.
Le milieu de terrain néerlandais Frankie de Jong, insuffisamment rouillé, a dû déclarer forfait pour annoncer la fédération néerlandaise. Les tests médicaux ont confirmé que sa cheville est encore assez solide. De Jong retournera en Espagne pour préparer la prochaine saison avec le FC Barcelone.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Judith Suminwa, la première ministre de la République démocratique du Congo, la toute première dame à ce poste, a présenté et défendu son programme devant l'Assemblée nationale hier à Kinshasa. L'insécurité dans l'Est et la création d'emplois pour les jeunes sont parmi ses priorités. Quels sont les défis qui l'attendent? A-t-elle les moyens de sa politique? Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, a répondu aux questions d'Eddie Isangou.
Son programme s'inscrit dans la continuité de ce qui était l'essai d'engagement du président de la République, à savoir plus d'emplois, plus de sécurité pour les personnes, des services de base de qualité, plus de connectivité. Et c'est un programme qui tourne autour de 92 milliards de dollars à mobiliser en 5 ans, répartis à 18 milliards pratiquement l'an. Le gouvernement a pour prétention à créer 1,5 million d'emplois l'année.
Pensez-vous que Mme Judith Suminwa aura les moyens de sa politique? Qu'est-ce qui est différent de ce qui était précédemment?
C'est un grand défi pour elle parce qu'elle intervient dans un environnement qui est très complexe, un déficit intérieur, un endettement qui remonte, un contexte international qui n'est pas favorable non plus à la mobilisation financière. Et donc, dans cet environnement-là, elle travaillera probablement dans la rationalisation des ressources très limitées. Et donc, son grand défi, c'est comment elle va financer tout son plan ambitieux avec énormément de réformes structurelles à mettre en œuvre alors qu'elle n'a pas suffisamment de temps et que l'impatience populaire est très élevée.
Et sur le plan sécurité, c'est l'un des grands problèmes que connaît la RDC. Pensez-vous qu'elle pourra avoir le moyen pour mettre fin à cette insécurité ou à cette guerre qui ne se termine pas?
Elle promet de maintenir les initiatives qui ont été mises en place, notamment en continuant à soutenir la programmation militaire dans le cadre d'un budget programme. Elle promet également de mobiliser suffisamment de ressources pour aider notre armée à mettre un terme à la guerre. Il y a cette volonté exprimée, on verra dans les concrets si cette vérité, cette volonté suffira. Il y a énormément de contraintes, des conflits qui perdurent avec une économie de guerre, avec des enjeux diplomatiques régionales et globales qui dépassent les propres capacités de l'action gouvernementale. Elle fait preuve de beaucoup de volonté. On verra dans le concret si cette volonté-là pourra régler définitivement la guerre à l'Est.
Il y a eu des incidents lors de ou avant sa présentation qui relèvent d'un conflit au sein de la coalition. Pensez-vous que ça sera aisé pour elle d'évoluer dans une telle coalition?
La coalition présidentielle fait preuve de beaucoup de tensions. Déjà, même en pleine plénière, on a vu Vital Kamerhe prendre la parole pour s'adresser aux militants qui ont été mobilisés apparemment par d'autres membres de l'Union sacrée. Donc on a une coalition qui est, je dirais, très plastique. Elle a également eu une réunion elle-même avec les députés de manière très directe, alors que les chefs de parti et les chefs de groupe parlementaire auraient pu aider à maintenir la discipline du parti. Elle sera, la majorité, elle est très laborieuse, donc elle sera appelée à négocier tout le temps. Elle a même parlé elle-même des communications ouvertes avec le Parlement pour maintenir une majorité qui, à ce stade, paraît comme nébuleuse et sans un axe de stabilité à l'intérieur.
Judith Suminwa, en tout cas, est une femme, mais qu'est-ce qu'elle pourra faire de différent des autres?
Elle est la première première ministre femme du pays, mais elle est davantage technocrate. Elle a été dans le siège du président, elle a été au ministère du Plan. C'est l'avantage de la technocrate qu'on a nommé élément de continuité que la femme politique, même si pour le combat de l'inclusion des gens, c'est une grande victoire pour les femmes. Elle a peut-être une sensibilité propre de mère, comme elle a même dit, elle est maman congolaise, et qu'elle aura peut-être un intérêt à mieux partager la richesse nationale pour plus de justice sociale.
Christian Moleka, coordonnateur de dynamique des politologues de la RDC.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Kankan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Direction le sud-ouest du Nigeria, dans l'état d'Oyo, des agents de santé ont participé à une campagne visant à diffuser des informations sur le vaccin contre le VPH. Dans les villages, le Nigeria lutte contre le cancer du col de l'utérus grâce au vaccin et de nombreuses personnes sont mobilisées pour faire passer le message dans les villages. Davantage avec Jini Niwa.
Dans l'état d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria, des agents de santé ont pris part à une campagne d'information sur le vaccin contre le papillomavirus mis au point pour aider à prévenir le cancer du col de l'utérus. Lanbero Arinlade Ayoade, coordonnatrice locale, aide à informer les parents.
This vaccine is safe Ce vaccin est sûr et n'a aucun effet négatif sur les filles. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils veulent réduire la fertilité des filles, mais nous avons informé les parents que ce vaccin est sans danger et qu'il ne fait que prévenir le cancer du col de l'utérus.
Au Nigeria, le cancer du col de l'utérus est le troisième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes âgées de 15 à 44 ans, selon les Nations Unies. Shehu Tijani, auparavant réticent, a accepté de faire vacciner sa fille.
Lorsque les agents de santé sont arrivés et ont voulu vacciner ma fille, j'ai demandé ce que cela faisait. Lorsqu'ils m'ont expliqué les avantages du vaccin, j'ai autorisé mes filles à se faire vacciner.
En 2020, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, le pays a enregistré 12 000 nouveaux cas et 8 000 décès dus au cancer du col de l'utérus. Des parents comme Ramatolai Awoniran sont conscients de la situation.
Nous avons déjà entendu parler du cancer du col de l'utérus et nous sommes conscientes de la maladie qu'il engendre. C'est pourquoi j'ai demandé à ma fille de se faire vacciner à titre préventif.
Bien que le vaccin contre le papillomavirus soit disponible dans de nombreux pays développés depuis une vingtaine d'années, il n'a été introduit dans les programmes de vaccination que dans la moitié des pays d'Afrique.
Le Sénégal a franchi une étape historique en devenant producteur de pétrole avec le début de l'extraction du champ de Sangomar. Annoncé par Woodside Energy, la compagnie australienne vise une production de 100 000 barils de brut par jour. Pour une analyse sur les opportunités, les enjeux et les défis de la production de pétrole et de gaz au Sénégal, Nanit Talani a joint à Dakar Meissa Babou, ancien chercheur spécialisé en économie et gestion, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
L'arrivée de ce pétrole et de ce gaz peut-être sous peu sera pour notre économie, pour les autorités qui ont cette vision d'urbanisation, sachant que faudra alors investir et beaucoup investir dans l'agriculture, la pêche, aussi bien dans l'agro-industrie que dans l'agroécologie. Pour cela, il faudra une manne financière importante. Nous attendons donc effectivement de ce pétrole et de ce gaz environ 750 milliards l'année. Si nous démarrons en ce mois de juin, pour un semestre, on pourrait espérer peut-être d'ici la fin de l'année engranger environ au moins 350 milliards.
Comment assurer une répartition équitable de ces bénéfices entre les différentes régions mais aussi les couches de la population sénégalaise?
Oui, mais ça c'est une question stratégique parce que il appartiendra à l'autorité de voir premièrement est-ce qu'il faut un fonds spécial dédié pour que ce fonds-là ne soit pas mis dans un budget politique qui risque quand même de disparaître ou alors le mettre dans le budget qui passerait peut-être aujourd'hui de 7 000 milliards à peut-être, je ne sais pas, 9 000 milliards. Mais on peut espérer que quand même une clé de répartition qui mettrait les secteurs sociaux de base en avant, comme la santé, parce que se soigner au Sénégal c'est très difficile et c'est trop cher. Les infrastructures sanitaires manquent, évidemment. L'école, parce que là on manque d'université. Et en plus maintenant, il y a le défi de l'agriculture pour une croissance inclusive.
Est-ce qu'il pourrait avoir des défis auxquels le Sénégal serait confronté dans la production de son pétrole ou l'exploitation?
Un défi majeur, c'est le raffinage. Nous sommes l'un des rares pays ici qui dispose d'une raffinerie. Mais parce que cette raffinerie-là était seulement conçue pour les besoins locaux. Aujourd'hui que nous avons maintenant une manne pétrolière importante en volume et qu'il faudra forcément traiter, je crois qu'une solution, c'est vrai, c'est de participer à un oléoduc avec les voisins. Mais l'autre solution, et l'autre défi majeur d'ailleurs, c'est immédiatement la mise en place de nouvelles raffineries, surtout au large de la ville de Saint-Louis, là où se trouve justement l'exploitation de ce pétrole-là et même du gaz offshore.
Quelle leçon le Sénégal peut-il tirer des expériences d'autres pays africains producteurs de pétrole?
À partir du Maroc, c'est plus apaisé dans le Maghreb, mais il y a peut-être des pays comme le Nigeria ou le Ghana où ce pétrole-là, quand même, a fait des vagues. Et c'est peut-être cette malédiction, d'ailleurs, qui fait que ces pays comme le Congo ou aussi le Gabon, qui ont trop compté sur ce pétrole-là, avec des budgets de 95% pratiquement pétrole ou 90%, si le pétrole tombe, c'est très logique que ces pays tombent. Mais l'expérience dans la gestion de ce pétrole en Afrique, et pourquoi pas même ailleurs, avec les pays arabes qui sont des pays amis, et je crois qu'on pourrait effectivement mutualiser toutes ces expériences, essayer de profiter au maximum de cette richesse-là. Et maintenant, l'avenir, c'est quand même de disposer de compétences humaines, financière, technique, pour éviter de se laisser entre les mains souvent de grands dealers.
C'était Meïssa Babou, économiste et enseignant-chercheur spécialisé en économie et gestion à l'université Cheikh Diop dans la capitale sénégalaise.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Ici aux États-Unis, le candidat à la présidence, Donald Trump, est de nouveau en campagne après sa condamnation à New York pour falsification de documents commerciaux. Lors du rassemblement dans l'ouest du pays, Trump a mis l'accent sur l'immigration et menacé de sanctionner des pays, dont la Chine, s'ils n'empêchaient pas les gens de partir pour les États-Unis. Davantage avec Scott Storms, correspondant de la VOA, récit Gabi Dorsil.
Donald Trump a repris le chemin de la campagne présidentielle la semaine dernière en Arizona, où il a déclaré que le président Joe Biden a perdu le contrôle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Tout cela est insoutenable, mais l'invasion de Biden n'est pas un accident. Il s'agit d'une démolition délibérée de notre souveraineté et de nos frontières. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un va vous expliquer pourquoi il voudrait que cela se produise. Je suppose qu'il s'agit probablement de votes.
Rien ne prouve que les non-citoyens votent en grand nombre aux élections américaines. Interrogé sur la manière dont il compte mettre un terme à l'immigration clandestine, Trump a déclaré qu'il agirait contre les gouvernements étrangers qu'il alimente.
Si la Chine ou un autre pays se comporte mal, nous avons ce que l'on appelle des droits de douane qui sont très sévères.
Ce mois-ci, l'administration Biden a pris des mesures pour bloquer les demandes d'asile à la frontière mexicaine lorsque les arrestations pour franchissement illégal dépassent les 2500 par jour. Biden estime qu'une réforme nécessaire de l'immigration ne doit pas s'accompagner des remarques incendiaires de Trump à l'égard des migrants.
Alors que nous luttons pour une réforme globale de l'immigration, il traite les immigrants de violeurs et de meurtriers. Il dit qu'ils ne sont pas des personnes. Il dit que les immigrés, je cite, « empoisonnent le sang de notre pays ». Mon prédécesseur veut un pays juste pour certains d'entre nous. Nous voulons un pays pour nous tous.
Biden estime que la rhétorique anti-immigrée de Trump ne correspond pas aux principes fondateurs de l'Amérique.
Vous représentez ce que nous sommes en tant que nation d'immigrants, nation de rêveurs, nation de liberté. Et c'est l'Amérique que nous partageons.
Les rassemblements de la semaine dernière étaient les premiers de Donald Trump depuis qu'il a été reconnu coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler les paiements dits d'argent caché qu'il a effectués avant l'élection de 2016. Lors d'un meeting dans le Nevada, il a déclaré que son procès était le résultat de l'instrumentalisation du système judiciaire par Biden, qui a échoué à la frontière.
C'est la pire frontière de l'histoire du monde. Aucun pays du tiers-monde ne possède une telle frontière. Et aucun pays du tiers-monde ne dispose d'armes permettant de s'en prendre à des candidats politiques, comme c'est le cas chez nous.
Un sondage de l'agence Associated Press réalisé en mars a révélé une évolution de l'attitude des électeurs à l'égard de l'immigration. Près d'un tiers des Américains estiment désormais que les immigrants courent un risque majeur de commettre des délits. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 19% qui étaient de cet avis en 2017.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouedraogo, Sims Lumami à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com. ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.